Donc moi, en fait, je voudrais parler d'espace social, des pratiques du jeu vidéo en ligne. Donc on a parlé de World of Warcraft tout à l'heure, ça tombe bien de l'avoir introduit, c'est mon objet d'étude. Aujourd'hui, on a deux interventions, en fait. Enfin, donc celle de Manuel Boutet, après moi, est aussi un peu centrée sur l'espace social, mais entendue dans un sens relativement différent. Et donc, je pense qu'en fait, on peut le mobiliser de deux manières différentes, en gros, dans l'étude des jeux vidéo, ce qu'on va faire ce soir. D'une part, dans un sens représentationnel, en quelque sorte, où on va considérer l'espace comme décrivant la géographie des mondes virtuels ou de l'Internet, et permettant de rendre compte, par exemple, des déplacements des joueurs, ou de l'agencement des différents sites, des différents lieux de la pratique. Et donc, c'est ce que fera plus tard Manuel Boutet. Par contre, j'aimerais entendre l'espace social dans un sens plus métaphorique, qui est plus ancré dans une certaine tradition sociologique, qui est en gros la tradition bourdieusienne. L'espace social, alors, c'est une manière en gros de représenter spatialement, géométriquement, les positions sociales d'un ensemble d'agents. Ce que dit Bourdieu dans un article de 83, je crois, Espace social et genèse de classe, c'est que la sociologie est dans un premier temps une topologie sociale, donc une manière de repérer les positions de chaque agent dans un champ et de décrire ces positions. Et l'intérêt de ce concept, donc il est double. D'une part, mais c'est assez marginal, c'est un intérêt heuristique, en fait. C'est-à-dire que l'espace social permet une représentation synthétique, parfois un peu caricaturale, certes, de la structure d'une pratique ou d'un ensemble de pratiques. Et donc, sa représentation sous forme d'espace, comme ici, permet d'illustrer aisément et d'une manière assez pédagogique ce que va mettre au jour une représentation des inégalités sociales. Ce que va mettre au jour une analyse sociologique, pardon, des inégalités sociales. Donc ça, c'est un graphique tiré de Raison pratique sur la théorie de l'action, un petit ouvrage de recueil d'articles de Bourdieu, plutôt à ambition vulgarisatrice. Et là, c'est dans sa théorie de l'espace social et dans sa théorie des champs, on voit assez mal, mais en gros, sa représentation de l'espace social, un espace social qui est déterminé par de haut en bas un axe qui est la possession, la dotation globale en capitaux de chacun des agents, et de gauche à droite par la dominante dans ces capitaux, dans ce total de capital, du capital culturel ou du capital économique, donc à gauche dominant le capital culturel et à droite le capital économique. Et donc on peut, à partir de là, positionner plutôt caricaturalement, encore une fois, dans cet espace tout un ensemble d'agents ou de catégories sociales, socioprofessionnelles, donc représentées ici sous les catégories socioprofessionnelles. Donc on aurait les ouvriers, employés, les cadres moyens, les professions intellectuelles, les cadres supérieurs du privé, ingénieurs, les gros commerçants, chefs d'entreprise, etc. Là, ce que fait Bourdieu, et c'est là que ça va m'intéresser, moi, par rapport à mon travail sur le jeu, il représente, outre ces positions sociales, en fait, des pratiques culturelles, en l'occurrence des goûts et des dégoûts, ainsi que des pratiques politiques. Donc la ligne qu'il donne ici, la ligne de démarcation, ce serait la ligne, encore une fois dans une vision très caricaturale, du vote à gauche ici du côté du capital culturel ou des faibles dotations en capitaux, et vote à droite de l'autre côté. Les pratiques culturelles, donc là on les voit très mal à cause de cet écran. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais en gros c'est un ensemble de sports, de boissons, de vêtements que on porte plus ou qu'on pratique plus ou qu'on boit plus ou qu'on mange plus dans un certain secteur de l'espace social, bière, football, ici guitare, comédie musicale, on aurait les films marche, montagne, golf, champagne, chasse, etc. etc. C'est un exemple, hein, qui est juste un petit retour assez rapide sur l'espace social, en tout cas sur cette théorie de l'espace social, pour montrer que son premier intérêt, c'est ça, c'est d'offrir une représentation synthétique de ce que va donner, de ce que va produire l'analyse sociologique. Cela dit, l'intérêt donc de ce concept ne se limite pas à sa représentation. À mon avis, en tant que concept sociologique, il permet également de penser les relations entre les agents sociaux d'une manière justement relationnelle et différentielle. de manière relationnelle, c'est-à-dire que les positions des uns ne peuvent être appréhendées qu'en vertu, qu'en fonction des positions des autres. Et donc que chaque agent va se positionner dans un espace social par rapport à d'autres. Pour prendre un exemple très simple, encore une fois tiré des travaux de Bourdieu de sociologie de l'éducation, en tout cas qu'il mobilisait dans ses travaux de sociologie de l'éducation, un diplôme comme le baccalauréat n'avait pas la même valeur, évidemment, on s'en doute au début du siècle, quand il était encore, du XXe siècle, pardon, on a changé, quand il était encore un privilège des classes supérieures, et aujourd'hui, au moment où, malgré des inégalités persistantes entre classes sociales, il est répandu dans toutes ces classes. Donc voilà l'intérêt de penser relationnellement les positions. De manière différentielle aussi, parce que c'est la rareté et la difficulté de leur accès qui en règle générale, fait leur prestige. Et donc leur différence qui va faire leur valeur. Encore une fois, le même baccalauréat avait, à un moment donné, un caractère distinctif dans la société qu'il a perdu aujourd'hui, ou en tout cas qui s'est minimisé, qui s'est restreint, et qu'on retrouverait grosso modo dans des diplômes de troisième cycle universitaire, des diplômes de grandes écoles, etc. Donc on a cette évolution de la valeur, en l'occurrence de la valeur des diplômes. L'intérêt de la notion d'espace social, quand on va étudier les jeux vidéo, ou en tout cas de cette vision-là de la notion d'espace social, à mon avis, c'est d'abord de rompre avec une vision plutôt naïve du jeu que je qualifie de lecture au premier degré enfin, elle pourrait être qualifiée de beaucoup d'autres manières, c'est donc que j'ai choisi, de lecture au premier degré de cette théorie du cercle magique de Huizinga. Donc Huizinga, dans Homo Ludens, c'est un philosophe, historien, qui a travaillé sur la culture et le jeu, les relations du jeu à la culture. Et donc il explique que le jeu est forme un cercle magique, un espace absolument autonome, clairement défini par rapport au reste de la société, et qui obéit et qui impose ses propres règles en son sein. Donc de cette autonomie que décrit Huizinga, beaucoup déduisent une forme de liberté des joueurs, dans le sens où le monde social dans le jeu serait aboli. C'est ce que véhicule par exemple l'idée d'un jeu comme fuite du monde réel, le jeu vidéo comme fuite du monde réel. Quelque chose dont on se réfugie pour échapper à des contraintes qui seraient extérieures, mais qui, étant extérieures, ne s'imposeraient qu'à l'extérieur du jeu. C'est ce que disent les joueurs eux-mêmes quand, par exemple, ils vont chercher à protéger le jeu contre justement tous les conflits qui peuvent venir du monde extérieur. Et dans mon enquête, j'ai eu l'occasion de rencontrer, par exemple, donc c'est un enquêté qui par ailleurs, administrateur sur un serveur privé. Donc un serveur privé, c'est une version pirate de World of Warcraft, en gros, qui est organisée par un groupe d'individus privés, et non par la société qui a édité le jeu. Et donc sa position fait de lui, il a une position extrêmement importante sur ce serveur, et il explique les règles qu'il impose aux joueurs. On évite de parler, donc là je cite, on évite de parler politique, on évite de parler mentalité, comment dire, mentalité sociale, ce genre de choses. On évite de parler religion, évidemment, parce que tout ça c'est des sujets à conflit, on n'est pas là pour la polémique. Et donc cette manière de protéger le jeu de l'extérieur, on est bien effectivement dans cette idée que c'est un espace clos, un cercle magique, un peu idéal. On peut retrouver mais justement, en fait, ce que signifient les revendications de ce joueur, donc d'exclure ce qui n'est pas du jeu hors justement du cercle du jeu, ce que ça exprime, c'est moins l'autonomie effective de cet espace-là, de cet espace social, que le combat nécessaire, la lutte permanente par les joueurs eux-mêmes pour maintenir cette autonomie et pour construire cette autonomie. C'est-à-dire qu'elle a rien de... on ne peut pas la postuler, on ne peut pas considérer qu'elle existe a priori et qu'elle est effective dans le jeu. On peut simplement dire que c'est ce vers quoi tendent les joueurs, parce que c'est ce à quoi ils aspirent, sans pour autant nécessairement y arriver. Et là, je vais prendre un exemple parmi des milliers d'autres qui va... un exemple du langage, donc qui fera le lien d'une certaine manière avec l'intervention précédente, c'est le langage SMS, dans le vocabulaire commun qu'on appellerait le langage SMS, mais l'écriture en fait en phonétique, qui est très utilisé par SMS, enfin quand on envoie des SMS ou quand on écrit sur les messageries instantanées. Ce langage SMS dans le jeu, il est extrêmement mal vu par les joueurs les plus, ceux qui occupent les positions les plus dominantes, donc les joueurs les plus compétitifs, disons, surtout. C'est-à-dire qu'il y a les guildes, à mon avis, enfin, en tout cas toutes celles que j'ai vues et toutes celles dont j'ai lu les règles qu'elles imposaient, et j'en ai lu beaucoup, imposent à leurs joueurs de ne pas utiliser ce type de langage. C'est un critère suffisant pour refuser l'admission d'un membre. À partir de là, on voit que ce combat-là contre le langage SMS, en un sens, c'est une lutte qui est sociale et qui vient du monde social extérieur au jeu. Qui elle touche, qui elle disqualifie, avant tout, ce sera les joueurs les plus jeunes, donc c'est dans le sens commun des joueurs, c'est ce à quoi ils associent le langage SMS. Pour eux, c'est le fait des joueurs les plus jeunes. Mais par ailleurs, c'est également une exclusion, une forme d'exclusion des classes populaires également, puisque en fait, ce qu'on demande aux joueurs, c'est une forme réfléchie du rapport au langage. On leur demande d'avoir un rapport maîtrisé au langage, rapport dont on sait qu'il est inégalement réparti dans le monde social. Donc à partir de là, on ne peut plus vraiment continuer à soutenir la fiction d'un monde du jeu absolument séparé du monde social. Et donc ce que permet un peu de voir l'espace social, ou en tout cas de parler d'espace social du jeu, c'est justement d'essayer de réintégrer toutes ces dynamiques-là qui peuvent être extérieures, qui sont aussi intérieures et qui proviennent de l'autonomie relative de l'espace du jeu, condenser, synthétiser toutes ces dynamiques-là en permettant la représentation. Différentes positions des joueurs. Donc à partir de là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est tracer vraiment un très grand trait à partir d'un travail en cours. C'est pas très joli, hein, des objets. À partir d'un travail en cours, donc que je prépare pour mon mémoire de Master 2 de sociologie, tracer à grand trait les principes structurants de l'espace social du jeu et discuter quelques-uns des liens qui existent entre cet espace-là et le monde social. Donc plus généralement, qui pourrait permettre d'expliquer les positionnements des joueurs. Je vais me fonder là-dessus, surtout dans cette intervention, sur un questionnaire que j'ai fait passer en février et mars dernier par Internet, et qui m'a donné 1300 réponses, en gros, 1300 réponses exploitables, et donc à partir duquel je vais vous montrer les résultats d'une analyse sectorielle des correspondances, notamment. J'ai fait aussi, l'an dernier, une série d'entretiens, une série d'observations ethnographiques sur lesquelles je me repose déjà, parce que les exemples que je vous citais tout à l'heure en proviennent, mais que je pourrais mobiliser par la suite ou dans les questions si vous voulez. Donc pour commencer, j'aimerais essayer de montrer quels sont les critères structurants donc de cet espace social des pratiques de World of Warcraft. Le jeu, c'est un jeu qui est extrêmement ouvert, qui est ouvert à beaucoup de possibilités, et le principe même des jeux en ligne en général, c'est qu'il n'y a pas d'objectif qui soit imposé, dans le sens où on peut simplement être là, on peut aller dans le jeu et puis discuter avec les autres joueurs, puisqu'il y a beaucoup d'autres joueurs. On peut aller dans le jeu et puis regarder les paysages et puis marcher. En général, c'est des espaces qui sont extrêmement grands, dans lesquels on peut badouiller se balader pendant des heures, disons. Et donc à partir de là, on peut avoir certaines illusions qui seraient que, il y a un fait qui est réel, c'est que les pratiques du jeu sont extrêmement diversifiées et que tous les joueurs ne projettent pas dans le jeu la même chose et ne donnent pas la même signification à leurs pratiques. Donc on va avoir des joueurs qui déclarent n'être là que pour leurs amis, qui sont là aussi et pour les voir, etc. Et s'ils n'avaient pas d'amis dans le jeu, jamais ils ne viendraient jouer. Il y en a d'autres qui vont déclarer n'être là que parce qu'ils adorent leur personnage, ils aiment beaucoup le faire évoluer, et que s'ils n'avaient pas ça, ils ne viendraient pas, etc. etc. Donc un ensemble très important de pratiques différentes. Le problème, c'est que toutes ces pratiques ne se valent pas, qu'elles n'ont pas toutes le même sens, et que surtout, elles n'ont pas toutes la même position dans le jeu, et c'est ce que va montrer justement l'espace social des pratiques. Il y a un bouquin qui est sorti cette année ou l'année dernière par des chercheurs scandinaves qui est paru au MIT Press, Digital Play, Culture and Identity, et qui dans lequel il y a deux articles qui m'ont intéressé. L'un qui parle des difficultés de jouer donc le roleplay, le jeu de faire du jeu de rôle dans le jeu, c'est-à-dire de considérer qu'on va contrôler son personnage en parlant comme si on était dans un monde, disons, médiéval fantastique, et d'utiliser un vocabulaire qu'on considère adapté en excluant tout le vocabulaire technique, par exemple, du jeu, en ne parlant pas de clic, en ne parlant pas de des caractéristiques, en ne donnant pas les chiffres qu'on connaît en tant que contrôleur omniscient du personnage, mais que le personnage lui-même n'est pas censé connaître. Cet article sur le roleplay montre justement l'extrême difficulté de cette pratique, dans la mesure où aucun mécanisme n'existe qui soit intégré au jeu, aucun mécanisme n'existe pour récompenser les joueurs qui se livreraient à une telle pratique, et que par conséquent c'est effectivement extrêmement difficile de la perpétuer. Et un autre auteur dans le même ouvrage va jusqu'à affirmer que je traduis l'anglais pour dire le code c'est la règle, c'est ce qu'elle affirme, et que les pratiques pour elle, les pratiques qui ne suivent pas les règles intégrées dans le système de récompense du jeu, donc dans le système tel qu'il a été créé par les développeurs, ces pratiques sont pour elle des pratiques déviantes. Et donc il n'y aurait qu'une pratique légitime, qui est celle qui se préoccupe simplement d'obtenir les de travailler à obtenir les récompenses prévues par le jeu. Donc j'irai pas jusqu'à dire que ces pratiques sont déviantes, mais à mon avis elle a raison sur un point, c'est que ce sont des pratiques qui sont dominées en fait dans l'espace social du jeu, et que justement cet espace est dominé par une pratique légitime, considérée comme légitime par les joueurs, qui est la pratique compétitive, c'est-à-dire celle qui va être tournée vers, en gros, vers l'accumulation de capital, qui est les récompenses données par, qui est constituée des récompenses que donne le jeu. Donc, sous deux formes principales, ce que j'appelle capital humain, et qui ressemble effectivement à ce qu'on utilise en management, le terme a été forgé, il me semble, par Gary Baker. Donc le capital humain, c'est dans le jeu l'expérience des personnages, notamment. C'est tout ce que va accumuler le personnage comme compétence propre. Et ça va être quantifié sous la forme de l'expérience. Et d'autre part, la deuxième forme principale de capital accumulé par les joueurs ou par les personnages, c'est un capital économique qui est constitué donc d'or, d'argent et notamment d'objets que vont trouver les joueurs, et que vont activement chercher les joueurs dans le monde. Et ces deux critères-là, ce sont effectivement des critères qui sont inscrits dans le code. Quand Mortensen, donc l'auteur que je citais tout à l'heure, dit que le code c'est la règle, c'est ça. Ce sont des critères qui existent explicitement dans le code du jeu. Donc à partir de là, la pratique compétitive, qui va être la pratique dominante dans l'espace social, c'est celle qui est tournée vers l'accumulation de ces capitaux par le biais d'une rationalisation de la pratique du jeu. On peut le vérifier quand on s'intéresse, par exemple, au rôle des guildes dans la reproduction des normes. Les guildes, donc, ce sont ces... on en parlait encore une fois tout à l'heure. En gros, ce sont des associations instituées de joueurs qui se réunissent avec pour objet de former un groupe relativement stable, à la composition relativement stable, et dont le but va être d'organiser ce qu'on appelle des raids, qui sont en fait les missions en gros les plus difficiles du jeu, qui ne sont réalisables qu'en groupe de 20 à 40 personnes, de 5 à 40 personnes en fait, mais en général c'est 20. Donc de stabiliser ce groupe là pour qu'il puisse faire réaliser répétitivement ces missions et en gros amasser les objets les plus rares du jeu qui ne se trouvent qu'à cet endroit-là et qui forment la forme de capital économique la plus distinctive. Donc ces guildes, à partir du moment où, où ces capitaux-là ne sont accessibles qu'à des joueurs donc de haut niveau et qu'à des joueurs qui vont travailler avec d'autres joueurs de niveau similaire, en réalité, elles ne sont accessibles qu'aux membres de guildes, en gros. C'est-à-dire que, à partir des critères que je prends, que je ne vais pas détailler là, pour déterminer qui sont les joueurs compétitifs, c'est simple, 100% des joueurs compétitifs appartiennent à une guilde. Donc la moyenne est assez élevée, elle est à plus de 80%, mais les joueurs compétitifs sont obligés en gros d'appartenir à ce genre d'association. Or, ces guildes recrutent leurs membres par cooptation, et en fait, de ce fait, elles occupent une position extrêmement centrale dans l'espace social du jeu, dans la mesure où ce sont elles les gardiennes des positions dominantes, et ce sont elles qui vont reproduire les normes d'une certaine manière en décidant de qui va pouvoir accéder, de qui va pouvoir et qui ne va pas pouvoir accéder à ces positions-là. L'imposition, par exemple, d'un langage orthographiquement et grammaticalement correct se fait notamment par le biais des guildes, c'est-à-dire ce sont elles qui, obligeant leurs membres d'une part et d'autre part ce que Merton appelle la socialisation au groupe de référence, donc les gens qui vont vouloir intégrer une guilde vont devoir en intégrer les modes de fonctionnement, en intégrer les dispositions, les comportements. Donc ces guildes-là vont imposer des critères de parler, d'écrire, vont interdire la phonétique en gros. Donc des critères de correction grammaticale et syntaxique. Et j'ai un joueur qui me disait ça, qui m'expliquait dans un entretien. Que lui, on lui a fait. Il a commencé à jouer très jeune, à 14 ans. Enfin, très jeune. Il a commencé à jouer vers 14 ans. Et quand il a voulu intégrer les guildes les plus importantes, il était en train de faire justement un de ses raids avec une guilde qu'il testait. Et un joueur lui a dit : arrête de parler en SMS. Ça fait. J'ai plus la citation exacte sous les yeux, donc je vous la redonne en substance. Mais arrête de parler en SMS, ça fait trop. Ça fait gamin, ça fait trop jeune. Et il me dit, lui qui voulait effectivement absolument à tout prix intégrer ces guildes-là et intégrer ce milieu-là pour réussir dans le jeu, me dit, il n'a pas eu besoin de me le dire deux fois, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté absolument de parler ce langage-là, ou d'écrire ce langage-là. Il y a un autre événement qui est extrêmement intéressant dans le jeu et qui permet aussi de voir l'importance de ces normes, de ces critères de légitimité que sont cette accumulation de capitaux et le prestige qui en découle dans le jeu, donc la domination de l'espace social du jeu, c'est la sortie de nouvelles extensions. Donc le jeu a 4 ans, il me semble, et régulièrement sortent des extensions qui, en gros, ajoutent une part vraiment substantielle de contenu au jeu. Et notamment, elle ajoute, elle repousse, chacune de ces extensions repousse le niveau maximal. Donc le niveau, c'est effectivement les personnages accumulent de l'expérience en réalisant différentes actions dans le jeu, et selon quand ils atteignent des certains stades d'expérience, ils passent à un niveau et ils arrivent à un niveau maximal qui était 60 au début du jeu, qui aujourd'hui est 80, et quand ils arrivent au niveau maximal, ils ne peuvent plus progresser de cette manière là donc ils vont progresser de différentes autres manières, notamment en accumulant un capital économique. Et donc, ces extensions ont notamment pour effet d'augmenter le niveau maximal de 10, ce qui fait qu'en gros, tous les personnages sont relancés dans la course à l'expérience et que le prestige ou l'avantage qui leur était octroyé du fait justement d'un capital qu'ils possédaient, leur capital est dévalué par ce changement, ce que ça veut dire, c'est que quand on augmente, le niveau prime, disons que le niveau, le capital humain prime sur, généralement dans le jeu, prime sur le capital économique. C'est lui qui va fabriquer les différences les plus importantes. Donc à partir de là, quand il y a une différence de 10 niveaux, ce que ça signifie, c'est que quelqu'un, en gros, qui vient d'arriver niveau 80, Donc un personnage qui vient d'arriver au niveau 80 sera plus fort dans le jeu qu'un personnage qui serait resté au niveau 70, mais qui aurait accumulé au niveau 70 les objets les plus distinctifs, le capital le plus distinctif, et donc qui aurait accumulé ce capital économique le plus distinctif. Ce qui signifie que ce capital-là va être dévalué, il ne va plus rien valoir à la suite de la sortie de l'extension, et les joueurs vont être dans une nouvelle course où ils vont devoir atteindre le nouveau niveau maximal, et à partir de là, refonder ce capital sous une forme qui est un peu différente. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'était un peu long d'expliquer ce mécanisme, mais ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est de voir comment les joueurs se positionnent par rapport à ça, et comment tous les joueurs compétitifs que j'ai interrogés, et beaucoup également j'avais une question dans mon questionnaire en ligne qui portait aussi sur que pensez-vous de la sortie de la nouvelle extension, puisque le questionnaire est sorti à peu près au même moment que cette extension, avec quelques mois d'écart. Et donc tous les joueurs compétitifs se plaignent de ces extensions-là, pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion même carrément radicalement de quitter le jeu ou de changer absolument leur pratique. Et beaucoup se plaignent de la société éditrice en considérant qu'elle ne respecte pas une forme de pacte implicite qui serait que leur capital qu'ils ont travaillé à avoir, et ils utilisent le mot travailler, ils utilisent tout un champ lexical qui est celui du travail, du labeur. Tout ce capital qu'ils ont travaillé à avoir, ils le méritent et ils auraient dû le garder, et en sortant cette extension, on leur a détruit. Et donc tous ces discours qui existent, ils montrent bien l'importance de ces formes, de ces critères-là de légitimité. Voilà, donc à partir de là, je vais vous montrer les résultats. Alors, est-ce qu'on les voit ? Non. Qui sont les résultats d'une... Oui, ben on voit rien non plus en fait. Bon, ben désolé, je vais le commenter comme ça. C'est les résultats d'une analyse factorielle des correspondances qui a été réalisée à partir de résultats du questionnaire sur un ensemble de questions décrivant des pratiques des joueurs. Donc pour décrire rapidement les questions qui ont été mises, il y en a une qui demandait aux joueurs de classer par ordre de préférence leurs éléments dans le jeu, enfin les éléments qu'ils préféraient dans le jeu. Et donc il y avait 7 éléments qui ont été proposés, qui ensuite ont été rassemblés en 3 pôles. Ici on a le jeu au niveau, il me semble. Donc je vois pas si on a mis ça. Donc là ici c'est le jeu au niveau. Ici c'est les professions, l'exploration, donc l'artisanat, ce qu'on appelle le craft d'objets, etc. L'exploration, l'histoire du monde et du jeu. Et ici on a joué avec d'autres joueurs, donc qui a été l'élément le plus choisi par les joueurs. On a la fréquence du jeu qui doit être qui est cette ligne là de 0 à 10 heures, 10 à 20 heures par semaine. Hein. 0 à 10 heures, 10 à 20 heures, 20 à 30, 30 à 50 et plus de 50 heures par semaine, qui a été reconstruite à partir de réponses combien de temps avez-vous joué dans les 7 derniers jours, et pour ceux qui avaient arrêté, combien de temps en moyenne jouiez-vous durant les 7, pendant 7 jours, enfin pendant une semaine. Quoi. Ici les plus importants, voilà, celui-là, c'est ce qu'ont déclaré les enquêtés. La question portait sur les raids accomplis. Donc là, c'est un raid en particulier qui était le premier à sortir avec l'extension, mais qui est assez significatif des pratiques, enfin de la compétition. Donc ici, ce sont les gens qui ont ce qu'on appelle farmé. Donc farmer un raid, c'est le réaliser plusieurs fois de manière répétitive pour accumuler encore une fois tous ces objets les plus distinctifs qu'on peut trouver dans le raid. Donc ici, ils ont farmé et, ou terminé le raid de manière, en mode héroïque, donc le raid le plus difficile et de la manière la plus difficile. On doit voir par ici la même chose, mais en mode normal. Ici, participer au moins une fois au raid. Et ici, j'en ai participé. Ici, on va trouver les, l'équipement qui est extrêmement corrélé au raid. Donc là, c'est l'équipement le plus faible, moyen au plus fort qui, peut être, qui est ici également. Ici, on a le nombre de sites consultés. Donc le nombre de, en moyenne de sites communautaires qui sont des sites de stratégie notamment, donc des sites qui expliquent aux joueurs comment jouer, etc. Donc encore une fois, là c'est les, ce sont les plus forts, donc plus de 6 sites, et on va avoir, je crois ici, 0 ou 1, avec, on voit très bien le modèle. Et ces deux cadrans sont, s'opposent plutôt par toutes les pratiques culturelles autour du jeu en fait. Donc là, ça va être toutes les pratiques. Alors, je sais pas si je vais pouvoir. En gros, toutes ces pratiques-là, c'est lire des BD qui se passent dans le monde de World of Warcraft, lire des romans qui se passent dans le monde de World of Warcraft, lire des textes de fanfiction, donc des textes écrits par des joueurs qui se passent dans ce monde-là, produire de tels textes. Donc la production de tels textes est ici, la non-production est ici. Ça, c'est la non-réception de toutes ces pratiques. Donc, c'est pas de BD, pas de romans. Pas de film, ça doit être pas de, d'autre chose. Ici, on n'a pas de production de film, ici, production de film. Et voilà, et donc ici, c'est réception de BD, romans, textes, vidéos, etc. Et donc, à partir de là, on voit assez bien se délimiter les cadrans, comment dire, les deux axes, on peut les interpréter en gros comme. Pour caricaturer, on est dans, une, dans un espace social extrêmement bourdieusien avec dotation globale en capital et composition de ce capital, vraiment pour caricaturer. Hein. Composition de ce capital selon si elle est plus si le capital culturel spécifique est plus valorisé par rapport au capital économique spécifique. Le capital culturel spécifique serait alors en fait justement la connaissance du monde du jeu, le fait d'avoir énormément de pratiques culturelles autour du jeu, le fait de bien le connaître, etc. Et donc on voit des pôles de pratiques ressortir de ces résultats d'AFC. On aurait ici une pratique compétitive qui est donc la pratique légitime, donc caractérisée par un très grand, forte réussite du jeu, de réussite spécifique, accumulation de capital économique. Forte participation au débat technique, le nombre de sites, et c'est aussi un indicateur de la technicité de la pratique. C'est-à-dire que plus on fréquente de sites différents, ça signifie déjà qu'on les fréquente plus souvent en général, et ce que ça veut dire, c'est que la pratique va être plus réfléchie, et donc plus travaillée, disons. Et donc on a cette pratique compétitive qui est extrêmement intensive temporellement, donc on a là plus de 50 heures, mais en général c'est au moins 30 heures, etc. Ici on aurait dans ce cadran, ça décrirait, il est extrêmement épars parce que notamment parce que c'est quand même des activités qui sont faites par, en général il y a 10%, c'est 10% des joueurs, 10% des joueurs du questionnaire, donc effectivement ça fait qu'elle tire un peu la FC vers... par là, production de films, c'est aussi extrêmement, il y a extrêmement peu d'effectifs. Mais donc ce cadran-là décrirait tout un ensemble de pratiques hétérogènes d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de manières de les pratiquer, mais qui se ressemblent en ce que ce sont des pratiques, ce que je vais appeler moi des pratiques fans, à partir des travaux des cultural studies sur les fans et sur la participation des fans à la culture. Donc des pratiques qui ne se contentent pas en gros d'avoir, enfin qui ne se contentent pas. D'ailleurs qui est malvenu, mais qui ne font pas simplement, qui ne jouent pas simplement le jeu, mais qui cherchent à le produire d'une certaine manière, en jouant avec elle, en effectuant des détournements, donc comme la production de films, de machinima dans le jeu, etc. Ici, vous voyez très bien un pôle de pratique, des pôles qui sont caractérisés plutôt par l'absence, c'est-à-dire faible intensité du jeu, absence de capital économique particulier, absence de pratiques culturelles, et donc qui sont des pratiques plutôt les Anglais, enfin les Anglais et les enquêtés diraient casual, parce qu'on parle beaucoup anglais dans ces jeux-là. Qui seraient des pratiques en dilettante, disons. Et ici, on aurait un pôle plutôt que j'appellerais sociable, où avec vraiment une forte importance du critère de la sociabilité, donc du jeu pour être avec les amis, avec un capital économique moyen, un temps de jeu moyen, etc. Donc voilà en gros à quoi ressemblerait, entre guillemets, l'espace social s'il y avait un moyen définitif de le représenter. Ce que serait sa structure. À partir de là, ce qui est quand même intéressant ensuite, c'est de passer de cet espace-là au monde social, plus généralement au monde social, et de se poser la question des relations entre ces deux espaces. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans l'être social, dans les propriétés sociales des agents, va pouvoir expliquer que certains se retrouvent plus à tel ou tel endroit de l'espace social, et donc que certains vont avoir une pratique qui sera plus proche de tel ou tel archétype. J'ai oublié de le dire, mais il est évident que ces pôles-là que j'ai décrits, ce sont des archétypes, ce sont des idéotypes un peu caricaturaux, et qu'aucun joueur n'est un pur représentant de son idéal type, mais que beaucoup de personnes qui se retrouveraient là dans l'espace social vont en fait également écrire, produire des films peut-être, ou en tout cas lire des BD, vont avoir des amis. C'est pas parce qu'ils sont à cet endroit-là qu'ils ne favorisent pas la sociabilité avant tout qu'ils ne vont pas en avoir, etc., etc. Donc ce sont vraiment des grands pôles. Mais l'idée après, c'est de voir donc comment est-ce qu'on va pouvoir passer de ce monde, plutôt en sens inverse, comment on va pouvoir passer du monde social réel au sens de monde social matériel, du monde social qu'on connaît, dans lequel on vit, à cet espace social là. Et la première chose qui saute aux yeux alors, c'est qu'il n'y a pas d'homologie parfaite, et, comme il peut y en avoir dans d'autres espaces ou dans d'autres champs. Ce que ça signifie, c'est que en gros, il n'y a pas de lien linéaire entre des propriétés sociales définies grossièrement, notamment par les catégories socio-professionnelles, et la position dans l'espace social. Donc je vais vous montrer le même. Voilà, avec les variables supplémentaires. Donc là, c'est la même AFC, mais sur laquelle on a rajouté les variables, des variables supplémentaires qui sont des propriétés sociales, et pour certaines, des loisirs. Donc je vais encore une fois les expliquer, parce que c'est vrai qu'on les voit très mal sur le tableau. Mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est que toutes les catégories socio-professionnelles, j'ai pas pu prendre les catégories socio-professionnelles des enquêtés, pour la simple raison qu'il y en a environ la moitié d'entre eux qui sont étudiants. Et donc ça donne des choses pas très représentatives, puisqu'on ne peut pas, si on prend les catégories socio-professionnelles des enquêtés, on laisse de côté en gros la moitié des gens qui sont étudiants ou élèves lycéens, quoi. Donc j'ai pris les catégories, donc les PCS des pairs pour indiquer l'origine sociale, et on voit qu'en gros toutes les PCS des pairs sont en plein milieu ont des positions qui ne sont pas très significatives, à une exception près qui est les professions intermédiaires, qui tient un peu plus du côté des pratiques compétitives et qui sont un petit peu plus représentatives que les autres, dont la position est un peu plus significative que les autres, mais c'est tout. Donc quand on s'intéresse à ça, les niveaux de diplôme aussi sont là, et les niveaux de diplôme, c'est pareil, ils sont amalgamés au milieu, ce qui fait qu'en gros par ailleurs ils ne sont pas très significatifs, donc ils n'ont pas, a priori, pas d'importance sur le positionnement des pratiques, sur le choix de pratiques, que ce soit les niveaux de diplôme des enquêtés ou les niveaux, mais encore une fois difficile à mesurer, dans la mesure où un lycéen, on peut pas savoir si son niveau on peut pas considérer que son niveau de diplôme soit un indicateur effectif du capital scolaire, dans la mesure où, n'ayant pas fini sa scolarité, on peut pas savoir ce qu'il aura à la fin de sa scolarité. Par contre, on retrouve certaines certaines propriétés sociales qui vont être plus significatives et qui vont produire des résultats un peu plus intéressants. Alors, le premier, le plus évident, c'est la variable genre. Donc, les femmes sont ici, les hommes sont dans la moitié, enfin, vraiment encore une fois au centre de l'écran, mais les femmes sont beaucoup plus du côté. C'est une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents de joueuses dans l'échantillon, sont beaucoup plus du côté des pratiques les moins investies en fait dans le jeu. Ce qui est effectivement significatif, c'est-à-dire qu'elles vont jouer moins, avoir en général des taux de participation aux raids et de réalisation des raids un peu moindres. La seconde propriété sociale qui donne des résultats assez intéressants, c'est quand on passe du niveau de diplôme en fait à la matière dominante des diplômes, donc au genre de ces diplômes-là, et c'est ce qu'avait montré Bernard Rivière à propos de, entre autres, à propos des pratiques culturelles des étudiants. Quand on passe donc du niveau au genre des diplômes, on s'aperçoit que effectivement là, il va jouer un rôle plus important en fait que le niveau. Et donc on a les sciences humaines et sociales ici qui amalgament, enfin, beaucoup de choses, lettres, littérature, etc. Et donc sciences sociales, philosophie et histoire vont se retrouver plutôt du côté des pratiques culturelles, un peu plus tirant vers le pôle culturel entre guillemets. L'informatique, que j'ai mis comme catégorie à part étant donné que je savais que beaucoup d'enquêtés ont fait des études informatiques ou travaillent dans l'informatique, c'était le cas en tout cas dans mes entretiens l'an dernier, se retrouvent beaucoup plus du côté donc du capital économique spécifique et du jeu plutôt technique, plutôt du côté du pôle compétitif. On va avoir ici, alors là, amalgamé, mais en fait, ils ont tous à peu près la même pratique, économie, gestion, droit, sanitaire et social, etc., plutôt du côté des pratiques dilettantes, moins engagées dans le jeu, ou éventuellement des pratiques sociales, sociables. Et donc là, on voit que, alors, je peux vous donner des chiffres beaucoup plus précis, mais par exemple, quand on étudie une pratique fan comme l'écriture de texte de fiction, on a 21,6% des joueurs diplômés de SHS ou étudiants à la SHS qui vont réaliser cette pratique, contre 11,2% en moyenne et 7,2% pour les diplômés ou les étudiants en informatique. Donc on voit l'importance des différences entre ces pratiques. Pareil, quand on étudie, alors là, hommes et femmes, donc les femmes sont là, ça se voit pas sur ce graphique-là, mais en réalité, elles sont pas si loin de la pratique d'écriture, parce que elles sont 17,1% à écrire contre 10,5% des hommes. Donc voilà, il me semble, pour terminer là-dessus, qu'à partir de là, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment étudier les relations entre cet espace social des pratiques et l'espace des positions sociales à partir de critères aussi grossiers en fait que les indicateurs classiques de position sociale que sont notamment les catégories socio-professionnelles. Dans la mesure où c'est quelque chose qui fonctionne à peu près quand on cherche à déterminer qui joue aux jeux vidéo, qui joue à World of Warcraft et qui n'y joue pas. C'est-à-dire que là, effectivement, on a un effet qui est... extrêmement important de l'origine sociale qui font que tout le monde ne joue pas de la même manière aux jeux vidéo et ne joue pas aux mêmes jeux vidéo. Par contre, quand on définit des pratiques de manière relativement fine ou qu'on essaye d'affiner justement la description de ces pratiques, on se rend compte qu'il y a effectivement un hiatus entre ces descriptions-là, entre ces pratiques-là très précises où on va chercher qui fait quoi dans le jeu et des catégories sociales définies très largement. Et donc ce que je propose et le travail que je suis en train de faire consiste en gros à essayer justement d'affiner l'analyse des positions sociales pour essayer d'intégrer d'autres critères qui pourraient être plus à même d'expliquer d'expliquer la pratique effective et d'expliquer la position dans l'espace social du jeu. Et là, je voudrais vous en présenter un pour finir cette présentation, vous en présenter un exemple qui est la question de ce que j'appelle les dispositions ludiques. L'idée, c'est que pour comprendre la manière dont un joueur va s'approprier ce jeu-là, il faut comprendre toute la carrière ludique qui l'a fait passer d'un jeu à l'autre et qui fait que World of Warcraft est l'aboutissement, enfin pour lui, et en même temps qu'une étape probablement, mais est l'aboutissement de toute une socialisation au jeu particulière. Et quand on s'intéresse, donc j'avais pour cela une dizaine de questions sur les jeux vidéo antérieurs pratiqués par les joueurs, les jeux de société, les jeux de rôle, etc., qui ont été pratiqués avant par les joueurs. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ça donne des résultats très représentatifs, très significatifs en tout cas, dont je devais vous montrer les tableaux, mais je ne peux pas parce que voilà. Mais je vais simplement vous citer les chiffres. Donc quand on regarde. Les jeux multijoueurs notamment qui étaient inclus dans le questionnaire, c'était Warcraft 2 et 3, Starcraft, Counter-Strike, Quake 3 et Unreal Tournament. La pratique de tous ces jeux augmente à des degrés divers la probabilité d'avoir une pratique compétitive de World of Warcraft. Oui, bon, normalement ils sont dans le PowerPoint. Mais, donc tous ces jeux augmentent à des degrés divers la probabilité d'avoir une pratique compétitive. Et les raisons de cette augmentation, c'est que elles sont nombreuses. C'est d'une part que effectivement les joueurs qui vont se diriger vers de tels types de jeux vont avoir déjà a priori plus tendance à vouloir considérer le jeu comme un sport, considérer que ce soit un loisir qui soit digne d'être investi massivement en termes horaires, parce que avoir une pratique compétitive d'un jeu vidéo, ça demande énormément de temps, évidemment, énormément de temps de jeu. Et que par ailleurs, ces jeux-là, ils vont développer chez les joueurs toute une série de compétences et de compétences techniques et d'appétences, compétences qui vont être effectivement extrêmement utiles quand on va passer à World of Warcraft. Ça peut être simplement la maîtrise technique du clavier, de la souris, la rapidité des réflexes. Ça peut être la connaissance presque intuitive, puisque tous les jeux se ressemblent. Partage des points communs, la connaissance des mécanismes propres au jeu. Ça peut être des compétences langagières, en sachant que les dialectes qui sont propres à différentes formes de jeu sont souvent communs ou en tout cas partagent certains points. Ça peut être des compétences sociales, apprendre à jouer en équipe, etc. Et à l'inverse, le fait par exemple d'avoir pratiqué des jeux de rôle sur table, donc les jeux de rôle papier, comme vous voulez, ces jeux où on s'assied autour d'une table, on prend un dé et un papier, un crayon et on invente le personnage qui ne sont pas des jeux informatiques. Ce fait d'avoir pratiqué ces jeux de rôle-là vont augmenter significativement les chances, encore une fois, d'avoir une pratique fan qui sera temporellement relativement intensive, mais pas du tout tournée vers la compétition. Ou en tout cas moins tournée vers la compétition. Et là, on a effectivement. En prenant toujours comme indicateur de la pratique fan l'écriture de texte, qui est l'indicateur le plus drastique, celui qui fait la coupure la plus significative, on a 16,2% de ceux qui pratiquent souvent ou très souvent le jeu de rôle qui ont écrit tel texte contre 11,5% de la moyenne et 8,8% des gens qui n'ont jamais pratiqué ces jeux. Donc voilà, je m'excuse pour la mauvaise qualité du PowerPoint et j'espère que vous avez quand même. Ça vous a intéressé. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de montrer comment cet espace social se structure et quelles peuvent être ses relations avec le monde social. Merci.